Bazar Sonore, le podcast, une petite histoire qui raconte la grande histoire.
Savoir se défendre, c'est bien.
Beaucoup de confiance en soi, prise. Pas que de la confiance en soi. Aussi de la confiance quand on est à l'extérieur. On nous a toujours inculqué d'avoir peur, etc., etc. Et là, du coup, je me sens beaucoup plus en confiance seule. Et je mets des guillemets. Et du coup, ça fait du bien, quoi. De plus avoir peur, en fait. De combattre la peur.
Moi, ça m'a fait du bien aussi de savoir que pour chaque situation, je pouvais me défendre et que c'était des choses que je pourrais utiliser sans avoir, par exemple, besoin de faire 10 ans d'un art martial ou quelque chose comme ça. Et de savoir que maintenant, s'il y a une situation, je sais que je peux, j'ai la possibilité de me défendre.
Moi, j'ai ressenti beaucoup d'excitation parce qu'on a appris plein de nouveaux trucs. Des trucs qu'on ne connaissait pas, plein de petits tips qui sont intéressants. Et franchement, moi, j'étais grave excitée. Hein. Ça m'a... Enfin bref, j'étais contente.
Puissance, l'impression de pouvoir avoir le contrôle dans une situation où à la base, c'est pas nous qui l'avons. Et je trouve que aussi, ça a fait remonter des trucs... Ça m'a aidée à réaliser que certaines choses qui m'étaient arrivées n'étaient pas normales. Alors que avant cette journée, j'avais pas suffisamment de recul pour me rendre compte que c'était pas normal, ou alors à quel point c'était pas normal. Genre, je voyais qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, mais je voyais pas à quel point ça pouvait aller loin.
Ça a suscité beaucoup d'émotions pour nous. Et j'ai remarqué qu'à la fin, vraiment, il y avait aussi un désir de parler. Comme si vraiment, après cette journée, la parole, elle s'était libérée vraiment encore plus. Pourtant, c'est pas grand-chose non plus, un stage d'autodéfense, mais ça nous a un peu remué, je crois, tous, et ça nous a fait prendre conscience de certaines choses.
Salut, c'est Inès pour Radio Tilleul. On vient d'écouter un extrait sonore de paroles de meufs enregistrées juste après un atelier d'autodéfense féministe. Durant cet atelier, nous nous sommes donné de la force avec des jeux de rôle, des exercices physiques, des temps de réflexion et de discussion. Le choix de la non-mixité nous a permis de parler librement, sans jugement. Mais si nous voulons pouvoir nous défendre, nous voulons surtout que les agressions cessent. C'est pourquoi un atelier autour du consentement entre mecs cisgenres a été proposé. Cet épisode tente de restituer une partie des échanges entre les participants. Et des ateliers en mixité permettront de prolonger les échanges. Il sera donc question, dans cet épisode, de l'influence de la pop culture sur nos comportements affectifs, de justice transformative, d'éducation et de prévention des agressions. Bonne écoute.
Moi je sais pas trop par où commencer, mais j'étais très ami avec une personne qui était presque un de mes meilleurs potes en fait. Et en gros j'étais en vacances et là il y a quelqu'un qui m'appelle qui me dit cette personne est un violeur. Je fais ok d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que je reviens à Saint-Étienne, j'en apprends plus sur l'histoire. Et j'apprends qu'il y a un autre pote qui est impliqué dans cette histoire et que la victime est aussi une pote. Donc c'est très très difficile de se placer dans une histoire, enfin de se positionner par rapport à une histoire comme ça. Je sais pas trop. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Je me posais plein de questions. Je me disais, wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que je fais, en fait? Du coup, j'ai essayé de parler avec la victime. Du coup, j'ai pu parler avec la victime. J'ai pu parler avec les personnes qui ont été accusées de l'agression. Et étant donné que c'est tous des amis, tous et toutes des amis, je sais pas... En fait, je me dis... Ok, je préfère... je me positionnerai plus du côté de la victime, mais comme c'est tous et toutes des amis, je peux pas non plus trouver un camp. Je peux pas me dire ouais, je suis de tel côté, machin.
Je voudrais mettre au clair un truc poisseux. La culture du viol. Vous en avez pas marre de faire comme si ça n'existait pas ? Parce que vu le nombre de témoignages, faut vraiment avoir les yeux crevés pour pas se rendre compte que c'est partout, tout le temps, devant nous. Et pourtant, on a l'impression de découvrir le problème. Selon une étude Odoxa pour le Figaro et France Inter publiée pas plus tard qu'en octobre 2017, 53% des femmes et 63% des jeunes filles interrogées déclarent avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Fais pas ta putaclic en jouant sur nos émotions, y a pas de rapport entre le harcèlement et le viol, puis avec des féminazis comme toi, bientôt on pourra plus draguer. Va te faire un bain de bouche avec une poire à lavement. Le rapport, c'est le consentement. Allez, répète avec moi. Consentement. Enfin là, on parle plutôt de l'absence de consentement. Pour faire court, c'est quand t'entreprends une interaction avec quelqu'un sans vraiment te poser la question de ce qu'elle peut ressentir. Rien à foutre. Ça s'appelle manquer d'empathie. Ça marche aussi quand tu lui dis un truc qu'elle avait pas envie d'entendre ou de savoir. C'est quand une personne en pleine possession de ses moyens ne t'a pas dit oui de manière claire et manifeste. Tu comprends ? Et tu sais, quand on vient de dire oui, on a le droit de dire non juste après. Et normalement, quand t'as compris ça, la différence entre séduction et harcèlement, ça devient facile aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que de plus réussir à faire la différence entre les deux, ça a l'air d'angoisser beaucoup de monde, surtout des mecs. Le harcèlement dans la drague, ça commence quand une personne ne répond pas positivement à ta sollicitation, mais que tu recommences parce que tu t'en fous.
J'ai pas en mémoire une date particulière où je me suis dit « Ah oui, tiens, le consentement, très, très intéressant, voilà. » Mais c'est venu petit à petit au collège en fait, parce que c'est au collège que il y a les premières relations amoureuses, sexuelles, etc. Et du coup c'est à peu près là que ça apparaît, cette question.
J'ai toujours eu une famille qui m'a assez sensibilisé là-dessus depuis que j'étais tout petit, même si du coup quand j'étais petit je ne me rendais pas forcément compte que ce genre de choses arrivait vraiment, c'était juste dans un coin de ma tête.
Pareil, hein, j'ai toujours été conditionné à mes relations, à qui faire confiance, mais j'associais pas ça au mot consentement. J'en avais conscience, mais je pouvais pas l'assimiler à ce mot-là.
Moi, depuis que j'étais petit, j'ai eu pas mal de problèmes avec mes parents. Au début, j'avais pas vraiment d'idée, parce que j'étais tout petit, sur le consentement, etc. Mais ça m'a beaucoup aidé pour voir en fait ce que c'est le consentement et comment essayer de le gérer. Enfin, si on a un problème avec certaines personnes ou autres, essayer toujours voir et se rassurer avec la personne et voir si elle est partante ou pas. C'est pas juste les mots qui disent ça. On peut s'exprimer, mais pas juste avec les paroles, quoi.
Moi, avant le collège, je pensais vraiment qu'une relation, même si c'était très flou pour moi, une relation sexuelle, c'était consenti dans tous les cas. En fait, c'est à partir du moment où j'ai entendu parler du viol, en fait, et où j'ai compris qu'en fait, une relation, elle n'était pas forcément consentie dans tous les cas, et qu'il pouvait y avoir des cas où une personne ne respectait pas le consentement ou ne comprenait pas le consentement, et où ça pouvait mener à des viols ou à des agressions.
Elle, je la sentais très sincère dans ce qu'elle disait et elle en avait même du mal à en parler et que c'était très difficile. Et du coup, je me suis dit pourquoi elle inventerait, quoi. Pour moi, ça me paraissait clair. Et contrairement aux agresseurs qui ont... tout le monde avait presque une vision différente de ce qui s'était passé. Et même les agresseurs, il y en a qui niaient les faits. Et moi, en tout cas, de mon côté, j'essaye de m'en éloigner. Mais si jamais ces personnes viennent discuter avec moi, je ne vais pas non plus les rejeter directement. Et... je sais pas, c'est toujours ce problème de comment, même du regard des autres qui connaissent l'histoire, comment est-ce qu'ils vont me voir si je discute avec un des agresseurs. Ouais, en fait, c'est que ce soit la victime ou les agresseurs, maintenant font beaucoup moins partie de mon entourage parce que ils et elles ont changé de ville et donc j'ai beaucoup moins l'occasion de les voir. Mais si je viens à discuter avec eux, je saurais pas trop comment réagir. soit je discute avec eux, soit j'hésite, soit je les rejette, je sais pas quoi faire en fait. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir l'avis d'un groupe de mecs cis.
On ne connaît pas vraiment l'avis des hommes cis là-dessus. Pas forcément, donc c'est assez intéressant.
Mais je trouverais ça aussi intéressant d'avoir l'avis de personnes genrées féminins.
Ce système, il nous conditionne à être de grands hommes virils et séduisants. Il y a aussi ce désavantage-là où le mec est vraiment mis dans une case où il est le séducteur viril et maître de la maison. Et en fait, je pense que ça peut mettre à mal beaucoup de gens de essayer de se penser comme quelqu'un de viril et essayer de travailler sa virilité. Le 21e siècle, ça marque quand même une période de changement, j'ai l'impression, dans, en tout cas la place de l'homme dans la relation sexuel, si on parle en tout cas de consentement dans les relations sexuelles, rien qu'en discutant avec les gens qui sont de une ou deux générations avant nous, on peut voir que à notre âge, on est bien plus sensibilisé à propos de ces questions-là et qu'il y a beaucoup de nouveaux termes qu'on utilise. C'est carrément, il y a un langage qui se crée autour de cette question du consentement. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup pour aider à ça parce que du coup, ça a permis à certaines personnes de anonymement pouvoir diffuser leurs paroles ou leurs accusations à grand nombre de personnes sans que leur identité soit mise en danger.
Il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, notamment depuis la libération de la parole des femmes. Mais quelque part, il y a des choses qui n'ont pas assez évolué ou qui n'ont pas évolué aux yeux de tout le monde. Et je pense que dans les années futures, il faut faire en sorte que la plupart des gens comprennent vraiment l'impact que ça a. Et...
Cette évolution, elle se fait peu à peu, mais c'est lent. Et...
Oui, et puis il ne faut pas juste se dire « oui, enfin, j'ai mes idées sur le consentement enfin, ». À mon avis, moi, je pense qu'il faut toujours essayer de s'informer, être un peu ouvert et d'essayer de comprendre et de résoudre ce genre de problème.
La représentation du non-consentement comme en fait une base de scénario qui devrait produire de l'érotisme.
Laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Sortons.
Et qu'est-ce qui vous retient de voir les choses comme je les vois ?
C'est très problématique parce que ça participe à des stéréotypes autour des femmes qui disent non mais qui en fait pensent oui.
Pendant longtemps, dans les films que je voyais, l'homme se fichait des protestations de la femme. C'est le cas dans Star Wars, où Han Solo déclare son amour à la princesse Leia. Ils sont dans la salle des machines du vaisseau spatial. Elle rétorque qu'elle ne veut rien de lui, en aucun cas.
Cessez de faire ça.
Il la pousse contre le mur, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle résiste ? Non, elle réalise que c'est l'homme de sa vie.
Je suis un gentil fourrier.
Et là, on se dit, waouh. À l'époque, c'était une scène très romantique. Ce sont des mythes sexuels qui nous ont été transmis par les films. Et il y en a un paquet des comme ça.
Là, on voit bien que sont à l'œuvre des constructions sociales très anciennes, des constructions historiques et culturelles.
La plupart de nos connaissances, on les doit au cinéma. Aux médias, à ce qu'on consomme. On nous inculque de fausses informations sur la sexualité. Une femme doit résister. Elle ne doit pas montrer son désir, ni faire le premier pas. C'est à l'homme de prendre l'initiative. La femme refuse, c'est pour qu'il revienne à la charge.
On a cette représentation du consentement sur un mode anglo-saxon comme renvoyant à une forme de pacte, voire même de contrat que signeraient les deux partenaires avant une relation sexuelle. Je crois que c'est une façon, en fait, de se débarrasser de la question et de ne pas voir que le consentement, c'est à peu près tout l'inverse.
Le principe du consentement, c'est que chacun exprime clairement ce qu'il veut.
Enfin, de donner du vocabulaire, ça permet d'être plus riche dans les échanges. Voilà. Je veux que tu me touches le clitoris, ou je veux que tu me touches plus bas ou plus haut, ou quoi. Quand on a des mots, c'est pratique, quoi. On peut vraiment aller plus loin.
Mais le truc, c'est que comme cette personne accusée faisait partie d'un entourage très militant, et ben elle était un peu virée du militantisme au sein de la ville, en tout cas. En fait, je pense que depuis cette histoire, comme c'était une sorte de choc pour beaucoup de personnes à Saint-Étienne, et ben il y a beaucoup d'histoires aussi qui sont ressorties après ça. Et en fait, et ben même moi dans mon entourage, parmi mes connaissances, parmi mes amis, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. C'est toujours très difficile de se positionner. Et en fait, c'est là que je me rends compte que je sais plus à qui je peux faire confiance. Je sais plus. Enfin, c'est très beaucoup plus difficile d'avoir confiance envers les gens quand on sait que. Enfin, beaucoup de personnes sont susceptibles d'être accusées d'agression ou de viol, quoi.
Moi, j'attends que la justice elle aille plus vite, déjà, parce que c'est beaucoup trop lent, et que quand on leur donne des preuves, qu'ils n'attendent pas 10 000 ans pour la traiter, alors qu'ils ont tout ce qu'ils veulent devant eux.
La parole est de plus en plus libérée, et du coup, il y a de plus en plus d'affaires qui éclatent. Du coup, il y a de plus en plus de vieux réacs qui pensent que certaines femmes accusent des gens juste pour se venger ou pour salir leur réputation. Du coup, ça fait que ces idées, elles se transmettent aussi dans l'imaginaire collectif. Après, est-ce que la justice est la bonne solution? Je sais pas. Enfin, comment dire? Oui, la justice est une solution quand même assez efficace. Mais après, si c'est pour condamner des gens à des amendes ou à des peines de prison, qu'est-ce que ça va résoudre, quoi? Enfin, je pense que pour résoudre ces problèmes-là, ça réside plus dans l'éducation que dans la punition des actes.
Enfin, il faut surtout éduquer à la source, parce que c'est souvent ça le problème. On essaye toujours de régler le problème quand il explose, mais jamais forcément à la source. Et enfin, c'est dommage, quoi.
Moi, je pense que déjà la solution, c'est pas la violence, parce qu'aller casser la gueule de quelqu'un parce qu'il a fait ça, c'est pas la bonne solution. Après, il y a des gens, il faut peut-être leur casser la gueule parce que c'est des vrais racleurs, mais moi, j'irai pas en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, toujours discuter, je pense. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu con, mais je pense qu'il faut essayer de parler, en fait, tout simplement, d'en discuter, de croire à la victime, et pas forcément de mettre le violeur de côté, mais de l'accompagner pour faire en sorte que ça se reproduise pas, en fait, et que des trucs comme ça n'arrive pas deux fois.
Bah, moi, je suis pas très d'accord avec toi, puisque même si je peux comprendre que c'est la majorité de c'est de vraies victimes, mais il faut toujours essayer de voir, enfin, faut avoir les deux versions et essayer à comprendre l'histoire et voir si c'est vrai, si c'est...
Moi, j'ai pas envie d'aller m'immiscer dans les histoires des gens, tu vois, c'est pas mes histoires. Si c'est passé telle ou telle chose, bah, et que je l'apprends, et ben... Bah, c'est sûr que je croirais la victime, et je pense que on est tous un peu acteurs de cette stigmatisation de genre. Enfin, étant donné notre éducation dans cette société un peu patriarcale, les hommes ont bien plus d'aisance à par exemple prendre la parole, à se placer dans l'espace public, etc. Et je pense qu'en fait, même si on essaye de s'en rendre compte, c'est compliqué de changer, mais il faut réussir à changer. Il faut qu'on arrive à se défaire de ces codes sociaux. Stigmatisant et dévalorisant.
Ces pratiques de justice transformative se sont développées autour du concept de responsabilité communautaire. La responsabilité communautaire comporte quatre aspects. Tout d'abord, le soutien de la personne survivante, sa sécurité et son autodétermination. Deuxième aspect, la responsabilité de l'agresseur et son changement de comportement. Troisième aspect, les changements communautaires en faveur de valeurs et de pratiques non oppressives et non violentes. Quatrième aspect de la justice transformative, c'est la mise en place de changements politiques et structurels, des conditions qui ont permis au préjudice de se produire. Vous voyez déjà un aspect important de la justice transformative, qui est de se placer dans un temps extrêmement long. Distinction par rapport à la justice pénale, qui tient compte certes du contexte de l'acte, mais beaucoup moins des rapports structurels, de domination structurelle qui peuvent exister entre les parties prenantes. Ce sont des processus collectifs. Hein, il implique des victimes, des auteurs et la communauté. Hein, la justice transformative encourage l'expression par les victimes de leurs besoins par nature unique et qui évolue avec le temps en matière de sécurité.
Dans cet épisode, on a entendu des extraits de la chaîne YouTube « Et tout le monde s'en fout », de la mini-série « Culbut » et d'une conférence de Gwenola Ricordo, sociologue, féministe et anticarcérale. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet épisode et aux personnes qui ont organisé et animé les ateliers. C'était Eva, on se retrouve bientôt sur radiotilleul.org.
Bazar Sonore, le podcast, une émission du réseau des MJC de France.